quand des adultes volent ton enfance pas. Imagine un mur et un poli barrage, car impossible, cette paix t'a voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales et belles, tout équilibre tout le temps. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Debout, il faut que le bouc la rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car croulisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple. Aujourd'hui, le 10 février, nous commencerons par un tour rapide de l'actualité nationale et internationale. Et par la suite, Jean-Martin a un interview.
Oui, on va avoir Julie Dionne, une porte-parole de la coalition Sherbrooke-Mille-Audvigny, qui va venir parler avec nous de la création du nouveau pôle commercial et de la suite des événements.
Puis, il y a Franck qui est encore avec nous. Franck, qui était le spécialiste de la semaine dernière, qui nous a offert une généreuse chronique sur le nihilisme russe, et est ici avec nous aujourd'hui pour nous parler de...
Aujourd'hui, je vais parler de la jeunesse communiste canadienne des années 30.
Ce qui risque d'être fort intéressant, tout ça, la rage du peuple.
Car ils ne veulent pas que ça change, ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage. L'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt.
Donc, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple. Aujourd'hui, le 10 février, on va commencer avec l'actualité. Moi, je commencerai avec une nouvelle qui concerne encore une fois la guerre en Afghanistan. C'est le ministre de la Défense, Peter McKay, qui a été contraint à défendre hier la mission, puis les coûts, surtout les coûts élevés de la guerre en Afghanistan. Ces coûts qui sont reliés à seulement le déploiement d'environ 2500 soldats en Afghanistan, ce qui est très peu comparativement aux coûts qui sont engendrés. La question se pose alors que 2500 Canadiens auront perdu leur emploi depuis cette fameuse crise. Donc, c'est l'opposition qui a suscité le débat sur les milliards qu'entraînait la mission alors que des travailleurs perdaient leur emploi. Pour faire un bilan vite, c'est 180 soldats qui sont morts, deux travailleurs humanitaires et un diplomate canadien. Et on peut légitimement se demander combien d'Afghans sont morts, juste voir si c'est proportionnel, ce qui risque pas de l'être. Alors que le ministre McKay annonçait que la mission de cette année coûterait 331 millions de plus, Dan Black, qui est un député néo-démocrate, a affirmé que l'escalade des coûts préoccupait les Canadiens et Canadiennes. Bref, préoccupait son électorat. Donc, selon les calculs du directeur parlementaire du budget, Kevin Page, la guerre coûterait aux Canadiens entre 14 et 18 milliards. Cette guerre devrait prendre fin, devait en fait prendre fin en 2009, En février 2009, genre très tout de suite, mais les conservateurs ont reçu l'appui des libéraux pour prolonger la mission de 2 ans. Donc, elle prendrait fin en 2011. Puis là, durant la dernière campagne électorale, les libéraux avaient l'air donc bien à gauche puis donc bien gentils. Ben Chris, on s'en fout, c'est la même histoire. Ils appuient la guerre en Afghanistan. Je veux dire, il n'y a aucune crise de différence entre les conservateurs et les libéraux. C'est juste une alternance du pouvoir. Bref. Une autre nouvelle, cette fois-ci, c'est des Colombiens qui manifestent leur désaccord avec l'accord de libre-échange qui a été signé plus tôt cette année avec Bogota. Donc, en ratifiant un accord de libre-échange avec la Colombie, le Canada deviendrait complice d'un gouvernement qui est corrompu, qui fait fi des droits de l'homme et menace la société civile et soutient une coalition colombienne de groupes sociaux. Dans le fond, ça, c'est ce que soutient une coalition colombienne de groupes sociaux qui sont venus à Ottawa pour dénoncer le traité économique entre les deux pays. Et une citation, ce n'est pas ce qu'on pense, ce n'est pas qu'on pense que c'est mauvais. Nous ne sommes pas contre le commerce, dépendamment de comment c'est fait, évidemment. Mais en ce moment, il y a énormément de problèmes à régler avant d'implanter un accord de libre-échange, explique Omar Fernandez Obregón de la Coalition des organisations et mouvements sociaux de la Colombie, COMOSOC, qui était en entrevue à la presse. Les membres du gouvernement sont soupçonnés de corruption. Ben, en fait, ils ne sont pas seulement soupçonnés, ils sont aussi en démarche judiciaire. On les accuse de corruption, d'expropriation, de privatisation sauvage, de mise sur pied massive de travailleurs syndiqués et aussi d'avoir financé et de participer à des milices d'extrême droite. Et même le président colombien Alvaro Uribe serait dans cette polémique-là. Donc, la liste des récriminations est longue et pour ses représentants d'une société civile qui a beaucoup de peine à se faire entendre en Colombie. D'ailleurs, de 2007 à 2008 seulement, c'est plus de 80 leaders syndicaux qui auraient été assassinés, selon les chiffres de la coalition. Puis ça, c'est autant les étudiants que les travailleurs et travailleuses, etc. Puis, il y a une mobilisation, je pense, qui se fait aussi au Québec pour dénoncer ça. Je pense que Jean-Martin a quelque chose à rajouter.
En fait, je lisais dans l'autre journal, il y a un article sur la Colombie, qu'à chaque année, en Colombie, il se passe autant de crimes qu'il y en a eu durant tout le régime de Pinochet au Chili. Donc, c'est vous donner une idée de ce qui se passe en Colombie. Voilà.
Oui, puis pour changer de nouvelle, une nouvelle qui concerne la prison de Guantanamo. Bref, ça m'a un peu surpris, mais bon, faut s'y attendre de la part de nos bons catholiques. C'est des groupes religieux, dont le diocèse catholique de Montréal, qui ont lancé un appel au gouvernement Harper pour leur permettre de parrainer 5 détenus de la prison américaine de Guantanamo. C'est le diocèse catholique de Montréal ainsi que le diocèse anglican de Montréal, puis des congrégations de l'Église unie de Toronto, qui souhaite permettre à 3 Ouïghours, un Algérien et un Kurde de la Syrie d'obtenir le statut de réfugié pour s'établir au Canada. Ça, c'est une citation. L'Évangile de la compassion et de la solidarité nous invite à parrainer ces prisonniers au sujet desquels il n'existe aucune preuve et qui pourraient mener à des accusations, mais qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine, explique Brian McDonough, qui est directeur de l'Office de la pastorale sociale de l'archevêché de Montréal. Donc, c'est étonnant de voir que de la part de charmants religieux qu'on souhaite faire venir des prisonniers d'un autre pays vers le nôtre. C'est supposé que la plupart des gens qui sont prisonniers à Guantanamo sont innocents. Et il y a une controverse d'ailleurs autour de la prison, controverse qui est survenue quoi, plus de 8 ans après son ouverture. Je pense qu'il y a un petit retard au niveau des... comment dire, des frustrations, puis des scandales. Mais bon, on a les scandales qu'on peut, bref. Il y a environ 245 personnes qui sont toujours détenues à la prison de Guantanamo. Cette prison dont le gouvernement, le nouveau président américain, Barack Obama, notre messie à tous, a souhaité la fermeture d'ici un an. Depuis, la question se pose, puis ça, c'est dans l'article, je trouve ça un peu drôle. Où iront tous ces prisonniers? Donc là, ce qui est drôle, c'est qu'on souhaite fermer la prison. C'est pourquoi? Pour renvoyer les prisonniers dans leur pays? Ou est-ce qu'ils vont se faire torturer? Ou pour envoyer ces prisonniers-là dans d'autres prisons? Est-ce qu'ils vont se faire tout autant torturer sans aucune accusation? Ça demande un éclaircissement qui malheureusement n'est pas dans l'article. Et puis, pour terminer cette actualité, j'irai avec un article qui m'a fait bien rire. C'est un article qui paraît dans la presse qui s'appelle « Que la force soit avec les militaires canadiens ». Afin d'aider les militaires canadiens à combattre les démons du stress post-traumatique et à faire appel à de l'aide professionnelle, les Forces canadiennes préparent un documentaire audiovisuel où l'on fait référence à un enseignement de Yoda, qui est un personnage bien connu de la saga de la Guerre des Étoiles. On découvre une force lorsqu'on souffre d'une blessure de stress post-traumatique et qu'on se retrouve à la combattre. Et une fois que l'on découvre que cette force, on se sent plus fort. Yoda avait raison, si on croit, on peut réussir. Ça, c'est ce que dit en général Joe Hicks, qui est un personnage fictif et représentant un militaire aux prises avec des problèmes de stress psychologique au retour de son déploiement. C'est dans le fond, ça, c'est le scénario qui est proposé pour la vidéo qui va être adressée aux soldats. Un des buts recherchés par le document est de montrer aux militaires qu'ils peuvent devenir résilients, autrement dit qu'ils sont en mesure de développer une résistance aux chocs psychologiques qu'ils subissent durant un déploiement et même qu'ils peuvent rebondir, mais cela demande une bonne connaissance de soi et de l'autre. En gros, ce que l'article nous dit, c'est qu'on va permettre, grâce à un documentaire où ce qu'on fait référence à Yoda, de immuniser nos militaires au choc post-traumatique, dans le fond, qui est généralement normal, une réaction normale chez tout individu. Quand on se met à tuer des innocents puis des gens sans aucune raison, dans une situation de stress immense, c'est normal qu'on ait des remords ou des situations où ce que on se sent pas correct ou des trucs du genre. Puis, bien sûr, jusqu'ici, la technique utilisée par le gouvernement, c'était de les bourrer de pilules, le plus souvent expérimentales, pour voir quels effets ça aurait. Malheureusement, les soldats continuaient de se suicider ou tout simplement de vivre dans la dépression. Mais bon, on espère que ce documentaire-là, qui fait référence à la Guerre des Étoiles, permettra à tous nos Canadiens et Canadiennes qui partent à l'étranger de tuer des civils ou des militaires, des rebelles, des insurgés, des terroristes, des Arabes ou des étrangers, de le faire sans remords. On va aller faire une pause musicale et on revient tout de suite. We'll be right back.
us we stay where we don't belong. We don't belong.
On vient d'écouter une chanson de NoFX avec Eat the Make, qui est tirée de l'album 45 ou 46 chansons qui n'étaient pas assez bonnes pour qu'on les mette sur un de nos autres albums, mais en anglais, bref.
C'est ça le nom de leur album?
Oui.
OK. OK. Donc, on va passer aux côtés de l'actualité. C'est des grossièrement à quoi ça ressemble l'actualité. Ça va être des moyens de pression des mouvements ouvriers un peu partout dans le monde. Donc, commençons. En Espagne, c'est une ville entière qui s'organise autour de projets de bourse de travail. En Espagne, à Lebrija, une ville en civil. Séville, oui, pardon.
À moins que je me trompe.
À moins que moi aussi je me trompe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a, il y a eu des appels d'offres pour engager des poseurs de briques et il y a eu un moyen, un peu comme les tests d'admission avant à l'université, avant qu'ils l'abolissent là, à l'université au Québec. Bien, ils faisaient passer des tests d'admission vraiment pas faisables pour la majorité du monde. Puis, ça faisait en sorte qu'ils gardaient une élite dans les universités au Québec. Donc, c'est ce qui s'est passé dans cette ville-là. Ils veulent filtrer les personnes qui vont travailler, vu qu'il y a beaucoup de demandes d'emploi dans cette ville-là. Donc, la municipalité fait en sorte qu'il y ait une procédure qui filtre ceux-là, dans le but de garder ceux et celles qui sont en faveur du pouvoir en place. Donc, c'est une nouvelle que j'ai prise sur Anarchismo et vous pouvez aller le lire au complet. C'est assez intéressant de voir que pour la majorité de la population de cette ville-là, c'est clairement un moyen de contrôle. Puis c'est aussi intéressant de voir qu'ils veulent, si j'ai bien compris, c'était quoi la fonction de bourse du travail, même dans le texte en anglais, ils l'appellent bourse du travail. Je pense que ça fait référence à bourse du travail de Joseph Proudhon, mais je ne suis pas certain. Grossièrement, à quoi ça consiste? Je pense que ça consiste en... Ce que j'en ai compris en lisant l'article, c'est que ça consistait à collectiviser le travail, c'est-à-dire de faire une gestion globale du travail, non pas de la centraliser comme la municipalité a réussi le faire en imposant un processus biaisé. Donc, on va passer à une autre nouvelle. C'est une grève générale dans en Guadeloupe. Donc, c'est des manifestants et des manifestantes qui menacent ou en fait qui avertissent le gouvernement parisien de chaos social si les taxes ne sont pas baissées, que les salaires ne sont pas montés et qu'il y ait une diminution du coût de la vie générale, en fait, entre autres par les prix du pétrole. Donc, Nicolas Sarkozy a répondu à cette grève générale-là en Guadeloupe en disant « Tasse-toi, pauvre con ». Non, c'est pas vrai. En répondant, il a envoyé un de ses ministres aller régler le problème. Donc, c'était il y a quelques jours ou aujourd'hui même, là, la grève générale en Guadeloupe. Donc, on passe du côté... de l'Allemagne, cette fois-ci, ça ne sera pas vraiment un groupe ouvrier qui va faire un moyen de pression, mais plutôt un groupe spécifiquement anarchiste en Allemagne, plus précisément autour des squats, des anarchistes de squats qui ont kidnappé une effigie de personnage de télévision qui est un pain d'épices. Donc, ils ont kidnappé un personnage de télévision en pain d'épices. Ben ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, ce qui est très amusant, c'est que ça a l'air à perturber beaucoup de gens. Du moins, leur action est très...
médiatisée.
Très médiatisée, justement, parce que ce personnage-là est très populaire.
Est-ce qu'il risque de manger le bonhomme de pain d'épices?
Je sais pas, mais ils disent... ils disent que le pain d'épices a assez souffert et que c'est vilain de faire ça. Donc, c'est un moyen de pression qu'ils ont mis de l'avant pour... pour s'opposer justement à ce que le gouvernement allemand fassent des évacuations de squats, entre autres dans un des établissements où est-ce que il y avait eu des chambres d'extermination juifs durant la deuxième guerre mondiale. Donc, c'est un petit peu partout, et plus spécifiquement dans celle-là, si j'en comprends bien. Faisons un tour en Grèce maintenant. Que se passe-t-il en Grèce? Est-ce que tout brûle encore dans les centres-villes? Donc, cette fois-ci, c'est des danseurs et des danseuses qui occupent un opéra. Et ils utilisent maintenant cet opéra-là. Ils l'ont renommé l'opéra de la population insurrectionnelle. Donc, ce lieu-là veut être un lieu d'opposition aux formes d'art spectaculaire dans le sens Guy Debordiste, là, et aussi une forme d'organisation populaire. À tous les soirs, semble-t-il, il y aurait une assemblée générale à 9h du soir. Donc, ça crée un lieu de rotation, semble-t-il. Continuons. Est-ce que j'ai d'autres nouvelles? Non! Donc, je n'ai plus de nouvelles.
On va aller donc faire un tour en musique. Qu'est-ce qu'on va écouter?
On s'en va écouter un groupe communiste libertaire qui s'appelle Scapel et Cabine, avec la chanson « Mémoire des luttes ». C'est parti! La chanson est supposée jouer.
Tu auprès du tien dans la Sierra Maestra, verser des larmes quand ils l'ont tué, fait de même pour Zapata. Sous le poids de 500 ans d'oppression, mes veines se sont ouvertes et parcouru une histoire populaire américaine aux côtés des fameux States. Épousé la révolte de Jackson et vu devant mes yeux la mort. Connu l'histoire du Black Panther, parti auprès de Newton et crié mort au port. J'ai haï les matins plus de 20 ans comme Jean-Marc Rouillant, entre grève de la faim et torture blanche, sans repentance et sans reniement. J'ai pleuré, crié, espéré, lutté pendant la guerre d'Espagne. Me suis réfugié avec des basques dans les villages de Bretagne. Porté le drapeau de la CNT dans la colonne de fer. Me suis enfui du bagne de Cayenne avec au pied les fers. J'ai affronté Big Brother en 1984. Combattu dans les milices du bourg avec Orwell. Dans la grâce des tranchées face aux attaques. Monté des barricades pendant la commune de Paris. Dos au mur comme les fédérés, la tête haute devant les fusils. J'ai crié y'a basta le 1er janvier 94. Bouffé 6 ans de tôle avec mon père et les Tupamaros. Pris d'assaut l'ambassade du Japon avec le MRTA. Levez la calache et le poing en hommage à l'Istol Selva. J'ai connu Bader, la RAF, les Brigades Rouges et les CCC. Que les vive la Palestine auprès des militants du FPLP. J'ai vu Carlo Giuliani tomber sous les balles de la police du capital. Concentré tellement de rage dans mes putains de veines. Prêt à exploser comme un plaque bloc assis à te doigts à Gênes. J'ai arpenté le couloir de la mort auprès de Léonard Pelletier et de Mumia. Lutter pour l'indépendance du Sahara et crever dans les prisons de Kenitra. J'ai eu les mains tranchées comme Victor Jara et ma guitare s'est transformée en une calache contre les paras. En novembre 2005, je me suis révolté dans les cités de France, épaulé par une jeunesse en colère et méprisée depuis l'enfance. J'ai foutu le feu à ma cellule dans ce putain de centre de rétention. Soutenu la lutte des sans-papiers, manifesté contre les expulsions. Garder la tête haute sous les sifflets des ouvriers français, laissez peu de place à la consternation. Fils de prolo étranger, héritier des luttes de l'immigration. J'ai côtoyé la misère dans les bidonvilles de Nanterre. Me suis noyé dans la Seine le 17 octobre 61 avec plus d'une centaine de mes frères. J'ai vu pleurer ma mère, ses larmes coulant sur le corps de mon petit frère. Nouvelle victime d'une bavure policière.